El Bibora, ça veut dire la vipère en espagnol. C'est aussi le nom d'une revue qui a existé de 1979 à 2005. La situation de l'Espagne est assez particulière, puisque, bah, on l'oublie un petit peu aujourd'hui, mais jusqu'en 75, c'était encore une grosse dictature avec le général Franco, régime autoritaire basé sur une morale profondément catholique. Ceci dit, même dans les dernières années de règne de Franco, pendant cette période qu'on va appeler par la suite la transition démocratique, on a déjà vu arriver quelques petites revues underground qui étaient pas mal inspirées d'ailleurs des modèles américains, de ce qu'a fait Crumb par exemple aux États-Unis. Mais en 79, El Vibora va être là une revue qui va connaître une diffusion très importante, qui était sous-titré « Comics para sobrevivientes », donc de la bande dessinée pour les survivants. Voilà, on est au lendemain de la dictature, et c'est une grosse période d'explosion, hein, ce qu'on a appelé par la suite la Mobida, donc ce moment où il y a effectivement en Espagne, qui était resté engoncé dans une espèce d'immobilisme, encouragé par l'imprégnation très forte de la religion catholique, connaît une espèce d'explosion hédoniste à cette époque-là, qui voit aussi un très grand développement de différentes formes d'artistiques, que ce soit la musique, que ce soit le cinéma. Enfin, c'est l'époque où Almodovar réalise ses premiers films. Mais c'est fondé par José María Berenguer, qui sera le directeur éditorial de cette revue, je pense jusqu'à la fin, mais qui bénéficiait du soutien de Toutain, qui est en fait un dessinateur, mais qui avait fondé toute une série de revues, donc qui était vraiment qui avait une grosse assise économique, quoi. Franco est mort depuis 4 ans. La revue est lancée avec un capital qui est assez important, donc elle va connaître une diffusion très importante. À un moment donné, les tirages avoisineront les 80 000 exemplaires, donc c'est assez considérable, en tout cas pour une revue européenne. Et arrivent là-dedans, bah voilà, toutes les composantes de la contre-culture. Mais il faut bien voir que, contrairement à ce qui s'est passé en France ou aux États-Unis, bah l'Espagne commence avec quelques années de retard, puisque cette contre-culture-là s'exprimait beaucoup plus difficilement dans le cadre d'un régime totalitaire. Ce qu'on constate dans les premiers numéros, c'est vraiment l'inscription très forte de cette bande dessinée dans les réalités de l'époque, où il y a pas mal question de la drogue aussi, qui est une des composantes de cette explosion contre-culturelle que connaît l'Espagne au milieu des années 70. Pas mal d'auteurs intéressants qui sont pour la plupart assez peu connus ici. La plupart avaient pratiquement tous été traduits en français par Artefact, cet éditeur qui a eu quand même une importance assez considérable. Mais bon, voilà, on les trouve parfois quand on cherche en seconde main. Alors, qui est-ce qu'on trouvait là-dedans? Il y avait notamment une série qui s'appelait Anacorma, dont le personnage principal est un transsexuel, un prostitué qui tapine sur l'Alhambra à Barcelone, mais qui mène aussi des enquêtes policières. Donc on a une espèce d'ambiance comme ça, de type roman noir à la Dashi Lamet ou à la Raymond Chandler, mais dans le contexte de l'Espagne post-dictatoriale, matinée comme ça, de choses qu'on pourrait penser venir de chez Jean Genet par exemple. Et donc, comme souvent, le polar est une occasion pour traiter des réalités d'une société, pour radiographier cette société-là à travers certains de ses aspects les moins immédiatement séduisants. Autre personnage qui est important, qui lui a été réédité par Cornelius, qui est Marty Riera, qui est connu pour Taxista, qui est ce récit qui là aussi se déroule à Barcelone et qui nous conduit dans le quotidien d'un chauffeur de taxi. Un dessin qui est très 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 marqué par Chester Gould, le créateur de Dick Tracy. Dire que c'est une bande dessinée qui est pratiquement une citation totale de Chester Gould. C'est assez typique de l'époque aussi. Là, on est fin septembre, début 80, donc d'une période où on va recycler toutes les esthétiques. Hein. Autant les années 60, début des années 70, étaient plutôt des esthétiques de rupture. Ici, il y a un recyclage du passé de la bande dessinée qu'on remet au jour, comme si on revisitait en quelque sorte la noirceur de Chester Gould, avec, où là, on se moque profondément aussi du catholique, puisque ce chauffeur de taxi est un vieux calotin qui préfère, je ne sais plus très bien, mais je crois qu'il finit par laisser mourir sa sœur qui veut se faire avorter, enfin des choses comme ça. Enfin, c'est très sombre et en même temps extrêmement délectable. Enfin, il y a une vision de nouveau de l'humanité qui est absolument abominable. Autre grande figure qu'on retrouve aussi, c'est Javier Mariscal, qui lui, son inspiration peut-être plutôt aller la chercher chez George Herriman, donc le créateur de Crazy Cat, qui mime une espèce de fausse superficialité, comme ça, avec des petits personnages dont on ne sait pas trop, qui ressemblent vaguement à des chats ou à des chiens, comme ça, qui boivent des cocktails dans les terrasses de café, etc. Mais qui est aussi de nouveau une manière de décrire la société de l'époque et cette espèce d'euphorie qui est liée à cette liberté retrouvée, mais aussi un petit peu ces miroirs aux alouettes que constitue le plaisir de la société de consommation. Enfin, Mariscal qui va, qu'aujourd'hui fait, à mon connaissance, plus beaucoup de bandes dessinées, on n'en fait même plus du tout, mais qui est surtout connu comme designer, qui a fait pas mal d'expositions et puis qui va surtout se rendre célèbre en 92 quand il fait la maquette des Jeux Olympiques de Barcelone. Voilà, mais là aussi, recyclage d'anciennes esthétiques, fausse superficialité. Et puis peut-être celui qui aujourd'hui est toujours bien présent, qui est Max. Alors en français, dans un premier temps, il était publié sous le nom d'Alpha Max, parce qu'il y avait un autre Max qui publiait dans Metal Hurlant, donc il fallait pas le confondre, qui aujourd'hui est publié par l'association, et qui est toujours extrêmement présent. Alors, de nouveau, son dessin, au départ en tout cas, apparaît comme une espèce de condensé de pas mal d'influences, de toute une tradition d'un bande dessinée espagnole, qui était les éditions Bruguera, qui était... un très très gros, enfin en tout cas sur le plan économique et pendant la dictature était un très très gros éditeur, mais qui publiait aussi pas mal de créations belges issues de Tintin, Spirou, même de Pilote. Ce qui fait que Max, comme pas mal d'auteurs espagnols d'ailleurs, ont eu accès à quelque chose de très complet en termes de bande dessinée, mais aussi les créations américaines, tout ce qui était fait d'après les dessins animés de Walt Disney, etc. Donc son dessin synthétise un petit peu ça, va de plus en plus évoluer vers une espèce de ligne claire, là où il va être marqué notamment par des gens comme Yves Chaland ou comme Ivor Melon. En fait, il va pas cesser d'évoluer dans son dessin. Voilà, de nouveau, on est inscrit dans la réalité de l'époque. On traîne avec des personnages punk, New Wave, etc. Alors, il fait notamment le personnage de Peter Plank, qui est évidemment une réactualisation du fameux Peter Pan de James Matthew Barry, mais avec un univers qui est plutôt celui de différentes cultures urbaines, puisque se côtoient des babacools finissants, des punks, et puis dans les épisodes suivants arriveront des rappeurs, etc. Mais tout ça matiné dans un univers assez onirique. Il y a toujours des nymphomanes qui traînent aussi dans ces histoires-là. Enfin, c'est une espèce de grand carnaval assez délirant et assez jouissif. Je disais très, très marqué, qui est, en tout cas dans Peter Plank, il y a une espèce de métaphore de la société espagnole de l'époque et puis de ces années 80, hein, qui sont aussi très marquées par ces sous-cultures qui ont été très, très présentes. Mais en même temps, le côté onirique qu'on trouvait dans Peter Plank, il va continuer à l'exploiter. C'est surtout cet aspect-là qu'on va retrouver, notamment dans des choses comme le Rêve éveillé de Monsieur T, par exemple, ou Bardin, le super réaliste, qui sont les deux bouquins qui sont parus à l'association, où là, effectivement, on arrive à des univers qui sont une espèce de mythologie éminemment personnelle de l'auteur, quelque chose d'extrêmement onirique, de longs voyages, de jeux avec la perception de la réalité, des influences qui viennent du surréalisme. Enfin, ouais, je sais pas, c'est assez compliqué à expliquer. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire que de lire, par exemple, ces deux bouquins-là pour s'en rendre compte. Et puis qui aujourd'hui est quelqu'un qui s'est développé dans beaucoup de domaines, à la fois l'illustration pour enfants, qui a fait énormément d'affiches, des pochettes de disques notamment pour Pascal Comlade par exemple, qui est un graphiste qui est très demandé aussi, et qui reste une figure malheureusement très peu connue en francophonie, et qui est vraiment une des très très grandes figures de la bande dessinée européenne de ces 30-40 dernières années. Il y a un noyau d'auteurs espagnols, hein, de gens comme Max, comme Mariscal, comme Marty ou comme Nazario. Mais bon, de nouveau, c'est une revue qui a un sommaire résolument international, puisqu'on va y trouver quelqu'un comme Yoshihiro Tatsumi. Il y avait Edmond le Cochon de Martin Leveron, Rang Xerox de Liberator et Tambourini. Pétillon, je pense, était publié là-dedans aussi. Ou Necron de Magnus, voilà. Donc il y avait effectivement cette assise espagnole, mais aussi beaucoup de créations qui venaient des grands pays européens où il y a des fortes traditions de la bande dessinée. D'ailleurs, un truc qu'on trouve beaucoup sur ces revues-là, évidemment, c'est qu'ils s'échangent beaucoup les auteurs, qu'on retrouve dans Frigidaire des gens qui sont dans À Suivre, qui eux-mêmes sont dans Elbibora, etc., quoi.